Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Angie a toujours voulu être maman, elle fabriquait même les petites chambres de ses futurs bébés quand elle était petite. Mais lorsqu'elle découvre sa grossesse la même année que son bac, et même si cette décision à prendre est douloureuse pour elle, Angie décide de ne pas poursuivre cette grossesse. Une décision qui va impacter son cheminement professionnel par la suite, car n'ayant pas été bien reçue, elle veut être présente pour les jeunes femmes qui passeront par là. Quelques années plus tard, elle rencontre l'homme avec qui elle souhaite faire sa vie, et malgré les doutes des médecins quant à sa fertilité, Angie tombe rapidement enceinte. Après une grossesse assez éprouvante, elle rencontre son fils, mais se retrouve très seule après un déménagement et un contexte familial compliqué. Finalement, elle se sépare du papa quand son garçon a 4 ans. 10 ans plus tard, avec son nouveau chéri, elle souhaite avoir un deuxième bébé et son parcours de combattante va commencer. Le couple démarre une batterie d'examens pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Angie va enchaîner les inséminations, les FIV et les résultats négatifs. Après de nombreuses tentatives jusqu'à aller à l'étranger pour un don d'ovocytes, le miracle se produit. Elle tombe finalement enceinte à son retour en France de façon naturelle. Bonne écoute.
Bonjour Angie.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Merci beaucoup de m'inviter, de me recevoir et de m'écouter.
Alors toi, tu es la maman d'un petit garçon et enceinte de ton deuxième.
Oui, tout à fait. Un grand garçon plutôt. Il a 11 ans maintenant. Enfin, un moyen. Un pré-ado, on va dire.
Alors, on va revenir avant tout ça. Toi, quand tu étais plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité? Est-ce que tu as toujours voulu devenir mère ou c'était pas vraiment un sujet auquel tu pensais?
Alors, si. Moi, toute petite, d'ailleurs, bah, comme tu as lu mon livre sûrement, je l'ai dit dans mon livre, je l'ai expliqué. J'ai toujours voulu être maman. C'est quelque chose qui était viscéral chez moi. Je ne me voyais pas vivre sans avoir un enfant un jour. Et c'est devenu d'autant plus fort et important quand à l'âge de 17 ans, je suis tombée enceinte. Et que j'ai longuement hésité à garder cet embryon, cet enfant. Mon ancien petit copain, j'étais avec lui depuis 2 ans, c'était mon petit copain de lycée. Enfin voilà, j'étais en terminale, hein, j'entamais la terminale puisque c'était en septembre 2000. Ouais. J'ai passé mon bac en 2001. Lui désirait cet enfant, mais j'ai reçu la date du bac et c'était le 13 juin donc 2001 et la date d'accouchement était aussi le 13 juin 2001. Donc voilà, la première épreuve du bac était le même jour que la date d'accouchement. Donc en fait, la vie m'avait dit il faut que tu fasses un choix. Ça a été très dur pour moi. Vraiment, mon cœur balançait puisque c'était un désir que j'avais au plus profond de moi depuis très longtemps. Quand j'avais 13 ans, moi, je m'amusais à déjà dessiner l'agencement de la chambre de mon bébé, quoi. Je sais, c'est particulier. Ah oui. Ouais, c'est particulier, mais c'était en moi. Et du coup, j'ai fait le choix d'arrêter cette grossesse parce que j'avais des ambitions, qu'avec le père, c'était pas forcément l'homme de ma vie, notre couple battait de l'aile, on faisait que se disputer, que je voulais passer mon bac, j'avais des ambitions, je voulais faire des études. Dans ma famille, tout le monde avait fait des études. J'avais plein de projets pour l'avenir et je me suis dit, j'ai envie d'offrir à cet enfant une jolie vie, avoir qu'il ait une maman stable, qu'il ait un métier, etc. Donc j'ai fait ce choix-là un peu à contre-cœur, ce qui a été difficile pour moi. Et pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je tombe enceinte d'Hugo, c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a un peu suivie et qui a été douloureux pour moi.
Ouais. T'avais pu en parler autour de toi à ce moment-là ?
Non, parce que c'était très tabou à l'époque. Il fallait surtout pas en parler. Mon papa m'avait dit « N'en parle pas, c'est la honte de la famille. » Enfin, voilà, c'était vraiment ça. Donc, je n'en ai pas parlé. Absolument pas. En plus... le rendez-vous avec la conseillère conjugale, j'imagine, à la base, il y avait un entretien préalable. C'est fait avec mon père, donc c'est lui qui parlait. Moi, j'osais pas. Je vivais chez mon père. Moi, j'osais pas parler. Donc, il m'a laissé le choix, évidemment, puisque le choix me revenait. Donc, il m'a dit, écoute, c'est ton choix. De toute façon, je ne t'obligerai en rien. Sache que si tu veux le garder, ben, on assumera. Je serai là, mais bon. Il n'était pas trop pour eux non plus. Donc voilà. Mais et puis ensuite, une fois le jour de l'avortement, j'ai choisi une aspiration parce que je voulais rien voir, je voulais être endormie. Et on m'a pas super bien traitée, j'ai pas eu l'écoute. Voilà, c'était vraiment, il y avait les infirmières qui parlaient entre elles, qui m'ignoraient, qui étaient là. Ah oui, mais tu vous rendez compte, il y a des parents, ils sont même pas au courant, les enfants ils viennent comme ça pour avorter. Enfin voilà, elles avaient ce genre de conversation. Alors moi je disais, mais en fait, moi mon père il est au courant. Elle me dit, ah, mais on parle pas de vous. Enfin voilà, c'était cette ambiance là.
Ouais.
C'était un petit peu tendu et du coup ça m'est resté un petit peu en travers de la gorge. Et c'est la raison pour laquelle ensuite, quand j'ai mis au monde mon fils, quand j'ai accouché de mon fils, j'ai entamé une formation de conseillère conjugale et familiale pour pouvoir justement travailler en service IVG et être conseillère conjugale et apporter mon écoute à d'autres femmes. Et c'est ce que j'ai fait ensuite pendant 2 ans.
Combien de temps après tu as eu Hugo ?
Eh ben 10 ans après.
Ouais.
Je suis tombée enceinte en 2010, alors il a fallu trouver le bon papa. J'avais ce désir en moi, mais je ne trouvais pas l'homme avec lequel... je voulais un enfant ou ça ne voilà, j'avais pas eu de relation assez durable. J'ai terminé mes études, je suis allée travailler à l'étranger, aux Pays-Bas. Enfin, jamais j'avais pas une situation qui se présentait idéale pour pouvoir fonder une famille à l'époque. Jusqu'au jour où je retrouve, parce que je l'ai connu enfant, Thomas, le papa d'Hugo,
ouais.
Que j'avais rencontré sur un tournage de film parce que ma maman était comédienne et que lui était musicien au conservatoire à 13 ans.
D'accord.
Et qu'il avait été choisi par France 3 pour être l'un des personnages principaux d'un film d'auteur,
okay,
de Jean-Paul Vecchiali. Et ça s'appelait Point d'orgue. Et donc ma maman jouait aussi dans ce film et on s'est retrouvés un été, et moi j'avais 8 ans, lui il en avait 13, à passer 3 semaines formidables sur le tournage. C'était un peu magique et moi j'étais tombée amoureuse de lui, mais lui ne s'intéressait pas du tout à moi. J'étais une petite fille, il a même fait son premier baiser avec une autre fille devant moi, sous mes yeux. Et puis plusieurs années après, hein, puisque... j'avais quel âge du coup quand on s'est retrouvés en 2010. Voilà, c'était, j'avais 26 ans, 27 ans. Et du coup, quand on s'est retrouvés, c'est allé assez vite. Et puis, j'étais allée voir le gynéco pour lui parler de notre projet d'enfant éventuel. Et il m'avait dit, ah, oh là là, vous avez vraiment un souci hormonal qu'on venait de détecter parce que toute ma jeunesse, j'ai eu des soucis de menstruation importants avec des règles hémorragiques, des cycles perturbés, des fois de 3-4 mois, des fois de 15 jours avec des anémies. Enfin, c'est très compliqué à ce niveau-là, mais à l'époque, je n'étais pas vraiment suivie. Je disais rien, je gardais pour moi, je n'ai pas vu de professionnel, on ne m'a pas vraiment aidée sur ça. D'ailleurs, je ne demandais pas d'aide. En fait, pour moi, c'était normal. Enfin, voilà.
Ouais.
Et ouais, les règles étaient douloureuses, etc. Et en fait, quand à ce moment-là, j'ai eu ce projet d'enfant, le gynécologue a creusé un peu et s'est rendu compte que j'avais des problèmes hormonaux qui faisaient penser à un syndrome des ovaires micropolykystiques. Je n'avais pas forcément beaucoup de follicules comme le syndrome le veut, mais j'avais des variations hormonales importante qui n'allait pas du tout et il m'avait dit oh là là ça risque d'être long et en fait au bout du premier cycle je suis tombée enceinte donc,
ah oui,
c'était une joie Oui, ouais. Voilà. Alors, c'est un cycle qui avait duré 3 mois, parce que j'avais pas eu mes règles pendant 2-3 mois. Mais en tout cas, je suis tombée enceinte dès que j'ai eu une ovulation qui s'est présentée. Donc, ça a été l'agréable surprise. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, finalement, je suis hyper fertile. J'ai vraiment aucun souci, quoi. Ouais. Voilà. Et j'ai eu mon fils, du coup, le 24 mai 2011. Il est né.
Et alors, comment s'est passée ta première grossesse?
Ah bah, en fait, ça a été un peu la désillusion. Je rêvais d'une grossesse depuis petite. Je me voyais courir partout. J'étais très sportive à l'époque. Mmh. Je dis à l'époque parce que depuis, plus du tout. Je faisais, je sais plus, 6 ou 7 heures de tennis par semaine. J'étais vraiment, j'ai été éduquée hein, dans le sport. Mon papa était vétérinaire, mais très sportif. Je faisais du tennis, de la plongée. Il a fait énormément de sport. Et voilà, c'était mon éducation. J'ai même fait 4e EPS.
Ah oui.
Voilà, on faisait du vélo. Ouais. Mais et donc du coup j'étais très sportive, donc moi je pensais que mon corps était assez solide et que ce serait cool, finger in the nose, mais non, pas du tout. Arrivée au, alors déjà j'ai été extrêmement malade au premier trimestre. Alors là franchement au point où on se dit mais mince, enfin limite on regrette la grossesse tellement c'est dur, parce que avoir une gastro pendant 2 mois c'est horrible. Ouais. C'est un enfer. On a beau dire la grossesse, c'est pas une maladie, bah quand on est très malade, c'est handicapant. Pour travailler, pour se lever le matin, pour faire les courses, pour vivre au quotidien, quand on est la journée dans les toilettes, ouais. C'est franchement horrible. Et bon, mais je m'accrochais en me disant c'est pour la bonne cause, c'est pour mon bébé qui se développait très bien, d'ailleurs aux échographies, enfin lui allait très bien, il a toujours. Était très bien. Et arrivé à la 16e semaine d'aménorrhée, tout s'envole, plus de nausées. Je me dis, enfin, je vais pouvoir revivre. Et non, 2 semaines après, grosse douleur au ventre, une sensation de pesanteur. Comme si j'avais une infection urinaire, j'allais aux toilettes souvent, j'ai l'impression que ça pesait, mais ça ne brûlait pas, c'était pas pareil, mais je comprenais pas ce que j'avais. Difficulté à marcher vraiment droite. Je vais aux urgences gynéco, et là... on me dit, ben ouais, effectivement, votre col est ouvert à 2 doigts, déjà.
Oui.
Il s'est ouvert. Et la tête du bébé, on le sent au toucher vaginal.
Ok.
Et voilà. Et vous êtes vraiment pas assez, donc j'étais à 18 semaines aménorrhée, vous êtes pas assez avancé pour qu'on puisse faire le monitoring. Ils m'ont mis un monitoring, mais on voyait pas les contractions, rien du tout, on savait pas si j'en avais. Moi, j'avais senti une déchirure à l'intérieur, donc je savais qu'il s'était passé quelque chose. C'est pour ça que j'étais allée aux urgences gynécologiques.
D'accord.
Et là, on m'a dit, bon, bah, c'est terminé, madame, vous allez rester alitée, et c'est 30 minutes par jour. Ils m'ont fait un prélèvement également, un prélèvement. Et quelques semaines après, ils m'ont rappelé en me disant que j'avais une MST, en fait, qui s'appelait le mycoplasme, et qui ronge le col et qui crée des accouchements prématurés. Donc, ils nous ont mis sous antibiotiques, qui nous ont de nouveau, avec mon conjoint, hein, de nouveau rendu malade pendant un mois. Ah oui, lui vomissait tous les matins et tout. Il a vécu ce que moi, j'arrivais... Ben, c'était dur. Et puis ensuite, ben, j'ai eu un utérus contractile tout le long de la grossesse. Je contractais dès que je marchais plus de 30 minutes. Et du coup, le col se réduisait jusqu'à ce que j'accouche à 36 semaines d'aménorrhée. Donc j'ai tenu, on m'avait dit, il faut tenir jusqu'à 36. À 36 piles, j'ai craqué. Voilà, j'ai accouché. 36 piles le jour même. Et en plus, en césarienne. En urgence, ben en fait, je sais pas ce que j'avais. Il devait appuyer sur une artère, le bébé. Il était à mon avis placé alors il avait la tête en bas depuis le début, hein, puisqu'il était prêt à sortir depuis 4e mois. Donc ça, il y a pas de souci. Bon, par contre, j'avais mon cœur qui battait à 200 dès que j'étais debout, et je ne savais pas pourquoi. Je voyais des étincelles, tout ça. Donc ça a été, quand ils ont vu que mon cœur ne redescendait pas. Allongée, j'étais à 100 et debout, j'étais à 200, 190 exactement. Et du coup, ils m'ont dit, ben là, c'est pas possible, quoi. On fait une césarienne. J'ai paniqué. Ça s'est fait en 1 heure. Hein. Je suis arrivée à la maternité à 13h20, un truc comme ça. Et j'ai accouché. Il est sorti à 14h37. Donc, ça a été ultra rapide. J'étais avec des copines. Elles m'amènent. Elles m'ont dit, on va chercher un truc à manger. Elles reviennent. Il y avait le bébé, quoi. Voilà, donc c'était très, très rapide. Mais une fois qu'il était sorti, tout s'est apaisé. Bon, je pense qu'il appuyait sur une artère, j'en suis quasi persuadée, parce que tout le long de ma grossesse... Enfin, vraiment, c'était une grossesse hyper éprouvante. J'avais une espèce de truc neuro. Ma main faisait comme ça, toute seule. Enfin, je sais pas. Et il m'a dit, ouais, vous avez une espèce de trouble neuro. Bon, du coup, j'avoue qu'après, j'ai eu très peur de... Je voulais plus d'enfant tout de suite, en tout cas. J'étais pas fermée à avoir un enfant, mais pas tout de suite. Et là, en plus... un mois avant que j'accouche, il y a eu un drame. Le papa de mon conjoint a eu un très grave accident, s'est retrouvé en réanimation, trauma crânien, etc. Et ça a été un peu l'enfer ce qu'on a vécu avec son coma le dernier mois. Donc mon conjoint était entre la perte de son père et la naissance de son fils, et ça a été aussi très dur émotionnellement. Donc en fait, on a eu la totale.
Ah oui.
Et le papa s'en est pas remis. Hein. Il est handicapé aujourd'hui à 75-80%.
Ouais. Ah oui, d'accord.
Mmh. Voilà, donc ça a été vraiment terrible. Et ce qui a eu un gros impact sur notre couple, hein, puisque quelques années après, nous nous sommes séparés quand Hugo avait 4 ans, parce que tout ça, ça a été trop dur. Mmh. Lui s'est renfermé, a fait une dépression, je pense, à cause de l'accident de son papa. Voilà, ça a été, je ne vais pas rentrer dans les détails de son intimité, mais ça a été une grosse épreuve. Et on a eu du mal entre la naissance du premier enfant, la gestion de ça. Moi, j'ai fait des crises d'angoisse, tellement tout ça m'angoissait. Donc, je n'étais pas non plus très bien. Et tout ça a fait qu'on s'est un peu perdu. Voilà.
Ouais. Et alors, comment tu as vécu, toi, tes premiers pas en tant que maman ? Alors, j'imagine que le contexte était très compliqué.
Ouais, le contexte était très angoissant. J'étais hyper angoissée, en fait. Alors, il y a plein de choses qui, pour moi, étaient très naturelles et très simples, comme l'allaitement, même si il est allé en néonat 3 jours, parce qu'il avait avalé du liquide amniotique. Ouais, on a étouffé. il est parti en néonat 3 jours, mais je l'ai pas trop mal vécu. Je suis allée le voir au possible, j'ai tiré mon lait, il lui donnait des biberons de mon colostrum au départ, puis ensuite il est revenu au 3e jour avec moi dans la chambre. J'ai installé l'allaitement quand même. Donc voilà, tout me paraissait naturel avec mon bébé. J'ai pas eu l'impression de galérer à apprendre. Voilà, l'allaitement s'est fait facilement, comme il avait pris du biberon, c'était un peu compliqué, il rejetait un petit peu mon téton et tout, mais en fait, on a trouvé des solutions, enfin, tout ça, ça me paraissait fluide par contre, le lien avec mon enfant, le changer, tout, enfin, c'est pas comme s'il y avait un gros bouleversement par rapport à ça, mais c'était plus moi émotionnellement, avec mes angoisses. Parce que tout ce qui s'était passé autour, la grossesse difficile, l'accouchement difficile, j'étais pleine d'angoisse et du coup, et puis en plus mes problèmes hormonaux qui sont revenus x 1000 avec la chute hormonale de l'accouchement, ça a été une période que j'ai trouvée très compliquée. Ouais.
Tu avais de l'aide ?
Non. Non, parce que les parents de... Moi, ma maman est à Cannes, donc elle était loin et puis... elle n'était pas très maternelle, donc voilà. Mon papa, il travaillait énormément à l'époque, le matin, au soir, vétérinaire, il faisait les urgences la nuit, tout ça, donc il était à Paris. Donc pareil, pas à côté. Moi, je suis allée à Lyon, hein, j'avais rejoint, je ne l'ai pas dit, mais j'étais allée rejoindre mon conjoint. Et je me suis retrouvée seule parce que y avait les parents de mon conjoint qui étaient vraiment adorables, mais bon, le papa, malheureusement, avait eu l'accident, donc la maman était... bouleversée entre elle passait son temps à l'hôpital avec le papa et puis mon conjoint aussi, c'est-à-dire que 2 fois par semaine il devait aller le voir dans une maison de réadaptation, tout ça, et c'était à 1 ou 2 heures de route, donc le soir après le travail il y allait, du coup c'était 2 fois par semaine, c'était compliqué. Je me suis retrouvée très seule, et comme en plus j'avais déménagé, j'avais quitté la région parisienne pour venir à Lyon, je connaissais personne. Donc j'avais pas de vie sociale et j'étais tombée enceinte tout de suite, j'ai été alitée tout de suite, donc j'ai pas eu le temps de me construire une vie sociale, et donc vraiment ça a été une période très lourde. Donc retomber enceinte et avoir un enfant juste après, voilà, j'en suis revenue. En fait, je me suis dit, ah non, Par contre, voilà, ma relation avec Hugo était très forte et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, le désir d'enfant ne m'était pas revenu tout de suite.
À partir de combien de temps t'as réussi à retrouver tes marques, vraiment à apprécier cette maternité, à te défaire de tes angoisses?
Bah, je pense qu'il y a eu à peu près 6 mois. Entre 4 et 6 mois, j'ai mis vraiment pour... Alors déjà, il y a les premiers mois, hein, les 3 premiers mois, on sait que c'est très dur parce qu'on dort très peu, c'est fatigant quand même pour les jeunes mamans, plus en allaitant, etc. Bon, après, j'ai allaité 1 mois et puis ensuite j'ai arrêté. Ça m'angoissait de me dire qu'il dépendait que de moi. Et puis, de toute façon, comme on avait mis des bouts de sein, qu'il avait pris du biberon et tout, mais ça, ma poitrine n'avait pas été assez stimulée, puis j'avais plus de lait. Mais bon, j'ai mis 6 mois et puis je me suis donnée à 100% dans ce nouveau rôle qui était pour moi ce dont je rêvais depuis toujours et j'étais très heureuse voilà d'être maman, de vivre ça. Donc j'ai commencé à ressortir quand il avait 4 mois à peu près. J'ai commencé à faire des activités avec bébé. Je travaillais en même temps parce que je faisais ma formation de conseillère conjugale et familiale, etc. Puis j'ai commencé à faire des activités avec bébé. Donc j'ai fait de la salsa avec bébé, j'ai fait du sport poussette avec bébé. Voilà. Donc là, je me suis fait des relations. J'ai rencontré des gens. Ensuite, j'ai fait ma formation et tout bébé. J'ai fait ma formation à la création d'entreprise parce que je voulais créer ma boîte. Donc j'ai fait une formation de 3 mois intensive. En formation d'entreprise, voilà, donc je m'occupais de lui quasi à temps plein et j'arrivais en même temps, j'avais une nounou qui le prenait quand j'étais pas là pendant ma formation, etc. Donc ça c'était une année de construction et aussi de où j'ai vraiment profité de mon bébé, donc c'est vraiment chouette.
Et alors cette formation?
J'ai commencé, il avait 4 mois, je crois, puisque c'était en septembre, il est en mai. Et ça a été sur 2 ans. Ouais, ouais. Et après cette formation, j'ai créé mon entreprise pour pouvoir inventer un outil de prévention santé pour les adolescents, puisque quand on est conseillère conjugale, on peut travailler en CPEF et traiter tout ce qui est de l'ordre des relations affectives et sexuelles, en fait. On est vraiment à l'écoute pour parler des moyens de contraception, des MST, des conflits intérieurs des adolescents, etc. Et du coup, j'ai créé une application mobile à l'époque, donc c'était il y a longtemps, hein, puisque c'était en 2012, de soutien et d'écoute pour les jeunes, sur laquelle, en fait, ils pouvaient envoyer des messages anonymes et confidentiels. Et derrière, j'avais mis une plateforme avec des professionnels de l'écoute qui réorientaient, qui donnaient des pistes. Par exemple, parfois, ils avaient honte d'aller voir le médecin de famille pour parler d'un souci alors qu'ils n'avaient pas avoué à leurs parents qu'ils avaient eu des rapports sexuels, etc. Encore. Et du coup, on les réorientait vers les CPEF, vers les bonnes personnes, pour qu'ils soient quand même pris en charge et tout. Donc, c'est un très beau projet. Bon, après, je me suis plantée complètement sur le modèle économique. Mais en tout cas, ça a été mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Et en même temps, j'ai fait en 2012 et en 2013, quand j'ai fini ma formation, parce que c'était sur 2 ans de 2011 à 2013. Quand j'ai terminé et que j'ai été formée au conseil conjugal et familial, j'ai travaillé 2 ans à l'hôpital, en service obstétrique, où j'ai reçu les gens, les femmes, les couples, dans le cadre d'IVG. Pour les accompagner, pour les écouter, pour leur faire comprendre pourquoi ils étaient là, qu'il y avait un sens, et les faire avancer.
Est-ce que tu as senti une évolution entre le moment où toi, tu étais allée adolescente et le moment où c'est toi qui deviens la professionnelle dans ce centre hospitalier?
Ah bah oui, j'ai apporté ce que moi, j'avais pas eu. En fait, je réparais quelque chose. Ça m'a fait du bien. J'y ai travaillé 2 ans. Ça m'a fait un bien fou de réparer quelque chose. J'ai vraiment... Je le faisais de façon très bienveillante et les relations qui se créaient avec ces femmes, en fait, et ces couples et ces histoires étaient tellement fortes. La plupart du temps, je veux dire, 3/4 des personnes me remerciaient. Elles arrivaient dans ce cabinet en se disant, qu'est-ce que je fous là? J'en ai pas besoin. J'ai juste envie que ce soit derrière moi et au revoir, qu'on fiche la paix. Basta, c'est normal. C'est un moment qui est pas drôle et on a envie d'oublier. Mais, et même pour celles qui ne le montrent pas. Parce qu'on a beau dire, ah oui, ces filles, elles font ça comme ça, elles n'en ont rien à faire, c'est des gamines insouciantes et tout. Non, déjà, c'est pas forcément que... C'est pas des ados, la majorité. Hein, ouais. La majorité, c'était plutôt les 20-25 ans et dans les statistiques. Et en plus, c'est pas ça, en vrai. Chaque femme, en fait, en souffre. Voilà. Donc, ça a été j'ai réparé plein de choses à moi, mais j'ai aidé les autres. Et ça a été une magnifique expérience. Malheureusement, un nouveau drame s'est produit pour moi. J'ai perdu mon papa de façon très, très brutale, donc chez qui j'avais vécu, qui m'avait éduquée, parce que j'ai vécu chez lui, pas chez ma maman. Et en fait, c'était un tel bouleversement que... Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai créé, en fait, ma chaîne YouTube pour me faire du bien, pour pouvoir faire des sketchs humoristiques, pour parler de la vie de famille, mais de façon humoristique, joyeuse, gaie. Et en fait, ça a été, pour moi, en tout cas, ça a été c'était ce qui m'a permis de faire mon deuil et de me sentir mieux.
Ouais.
Jusqu'à ce que ça devienne mon métier, parce qu'au début, c'était un loisir. En plus, c'était un moment de partage avec mon fils. Je l'avais appelée Angélique Marquise des Langes. Alors, j'ai choisi ce titre à l'époque. C'était Angélique Marquise des Langes. Et c'était un titre... C'était inconscient quand je l'avais choisi. Je l'ai choisi avec une amie, Eva, qui m'avait suggéré des idées. Et c'est celle-là que j'ai retenue. Et... En fait, ça a un sens parce que c'est vrai que mon papa, c'est lui qui avait choisi mon prénom Angélique pour le film Angélique Marquise des Anges. Mmh. Donc voilà. Donc, mais c'est après que je me suis dit ça. Je me suis dit, en fait, il y a quand même quelque chose, il y a un sens, quoi. Ouais. Mmh. Même si c'était inconscient et que je ne l'ai pas choisi pour ça, en me disant, tiens, c'est un hommage à mon père, pas du tout. Mais je pense qu'au fond, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Voilà, c'est sûr.
Et alors, du coup, toi, tu te retrouves maman solo. Tu disais que tu t'étais séparée du papa de ton fils.
Voilà. Alors après, quand Hugo avait 4 ans et demi, ouais, on s'est séparés. Effectivement, je me suis retrouvée maman solo pendant 4 ans.
Ouais,
pendant 4 ans. Ça s'est plutôt bien passé. Hein. Je me suis reconstruite. Là, je travaille. J'étais déjà ma chaîne YouTube avait flambé. Ça se passait bien, j'ai pu rebondir rapidement, refaire mes marques, reprendre mes repères avec mon fils qui était en garde alternée avec le papa. Ça se passe très bien, on est amis, enfin voilà. Tout se passe vraiment bien à ce niveau-là. Et puis oui, donc ça s'est bien passé jusqu'à ce que je rencontre Alex, parce que en fait, là, on parle beaucoup de la première partie, mais c'est la deuxième partie, finalement, le cœur de ce podcast.
On y arrive.
Jusqu'à ce que je rencontre Alex en 2020, voilà, à la sortie du confinement.
D'accord.
Voilà.
Et alors, au bout de combien de temps vous avez envie de faire, d'avoir un bébé tous les deux ?
Eh ben, 8 mois. Moi, j'avais bientôt 38 ans. Lui, il avait bientôt 39. Et du coup, on s'est dit... Enfin, voilà, c'est quelque chose... dont on parlait régulièrement, etc. Et j'ai senti qu'il y avait un désir chez lui au départ. Moi, j'avoue que j'avais limite fait le deuil d'un deuxième enfant avant. Mais vraiment, hein, j'étais OK avec ça.
Lui, il n'avait pas d'enfant ?
Si, il a un petit garçon de 5 ans et demi aujourd'hui. Donc, quand je l'ai rencontré, il avait 3 ans et demi, son fils.
D'accord.
Puis, voilà, c'est venu en fait en discutant, en s'aimant. Et puis, en janvier 2021, j'ai arrêté... mes traitements hormonaux qui faisaient office de contraceptif pour pouvoir avoir un enfant. Alors, comme lui avait eu son fils du premier coup et que moi, pareil, premier coup, Hugo, on ne pensait pas traverser l'épreuve de la PMA. Enfin, voilà, on n'avait jamais pas imaginé une seconde qu'on pourrait en arriver là.
Ouais. Alors, au bout de combien de temps vous commencez à vous poser des questions ?
En fait, très vite. Hein.
Ouais.
Moi, je suis quelqu'un d'impatient déjà. Et ensuite, j'étais suivie par un endocrinologue. Mmh. Et j'ai créé, du coup, donc, j'ai un compte Instagram en relation avec la vie de famille, etc., qui s'appelle ngmaman.youtube. Et j'ai créé en janvier 2021, quand j'ai lancé le projet bébé, un nouveau compte Instagram dédié à ça, parce que je me suis dit, il faut libérer la parole autour de l'avant-grossesse, parce qu'on parle toujours de la grossesse à partir de 3 mois, mais avant, en fait, on n'en parle pas, les femmes sont assez seules, c'est comme si la grossesse n'avait pas d'existence, et puis que si une fausse couche se présentait, la femme était seule. Mmh. Du coup, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, et comme moi-même, j'entamais ce projet et que j'avais besoin de partage, d'échange, etc., j'ai créé donc le compte NG Woman Pregnancy, voilà, dédié à ça, qu'il est toujours... Alors, il s'est un petit peu transformé en PMA, mais voilà, ça reste lié à la maternité. Et donc, j'ai trouvé beaucoup de soutien, beaucoup d'écoute, Et mes abonnés m'ont énormément aidé en fait à accélérer aussi toutes les démarches, parce qu'ils m'ont donné des infos précieuses.
Mais alors du coup, au bout de combien de temps vous avez commencé les...
Eh ben, au bout de trois mois, quoi, en mars 2021. Ah oui. Donc en gros, ouais, fin mars 2021, on était en PMA, quoi. En fait, mon endocrinologue, ne voyant pas mes règles arriver au bout de deux mois, je me suis inquiétée. Donc en février, je commençais à dire, je comprends pas, j'ai pas de menstruation, rien du tout. Et pourtant, j'avais fait des tests d'ovulation qui étaient positifs, j'y ai cru. J'avais eu des petites pertes marron, je m'étais dit, oh, c'est bon, c'est peut-être la nidation, c'était type. Et en fait, rien du tout, pas de règles au final. Donc, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Enfin, j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mon endocrinologue m'a donné une grande prise de sang à faire à J3 très rapidement, parce qu'il me suivait déjà pour tous mes soucis hormonaux. Et il fallait vraiment me suivre de près à l'arrêt des traitements, qui ne sont pas compatibles avec une grossesse. Et donc, on s'est dit, mince, ça va revenir, je vais avoir de nouveau de la pilosité, plein de choses. Donc, il me suivait de près. Donc, j'ai fait cette prise de sang, plus une abonnée qui me dit, teste ton AMH en même temps, on ne sait jamais. J'étais allée voir mon gynéco qui m'avait dit, tiens, je vais vous prescrire l'AMH, comme ça, on saura le temps qui vous reste. Mais pour moi, l'AMH, je ne savais même pas ce que c'était. J'ai dit à mon abonné, ah bon, t'es sûre? Elle dit, oui, teste-la. Regarde, j'ai une copine, elle a 38 ans, elle a ton âge, et elle ne s'y attendait pas du tout. Puis en fait, elle a un souci à ce niveau-là. Je fais, bon, je la fais. Et en fait, effectivement, le jour où je reçois les résultats, je souhaitais réaliser pour des femmes qui m'avaient demandé sur le Content G1 Pregnancy de parler de la PMA. Mais pas du tout par rapport à moi, pour d'autres femmes. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais interviewer une gynéco qui travaille avec une boîte avec laquelle j'ai collaboré, tout ça. Et comme par hasard, c'est une gynéco PMA de là où j'ai accouché, de la maternité, à Lyon. Donc, bon. Et ce jour-là, j'avais rendez-vous avec elle au téléphone pour fixer un rendez-vous d'interview. Et je reçois mes résultats. Et là, je vois 0,25 d'AMH. 0,27, voilà, 0,27, c'est précis. Là, je me rends compte que dans les dosages, que c'est pas normal.
D'accord.
Je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que ça n'est pas normal et je vois, vous avez les, enfin voilà, je vois que j'ai les ovaires d'une femme de 48 ans, quoi.
Ouais.
De 10 ans de plus que moi. Donc là, je me dis, oh là là, il y a un problème. Bon. Du coup, quand j'ai la gynéco PMA au téléphone, qui est aujourd'hui ma gynéco, grâce à laquelle je suis tombée enceinte. Elle me dit, je lui dis, écoutez, docteur, ok pour l'interview, pour tel jour et tout, mais je lui dis, je voulais juste vous poser une question, je viens de recevoir des résultats, est-ce que c'est normal, machin. Et elle m'a dit, vous savez quoi? On va pas se voir pour l'interview, on va d'abord se voir pour vous, et puis après on fera l'interview, vous inquiétez pas, ça va trois jours plus tard, ça va pas repousser les choses. Donc je me suis dit, mince, il y a peut-être urgence, effectivement. Donc je l'ai rencontrée cinq jours après.
D'accord.
Donc ça a été très rapide. Voilà, donc en fait c'est pour ça que tout s'est accéléré. Normalement, il faut quelques mois avant de rentrer en PMA. Les femmes attendent 6 mois, 1 an. Voilà, pas moi, puisque tout s'est enchevêtré pour que ça se passe comme ça. En fait, j'ai pas non plus poussé les portes, mais j'ai demandé et puis c'est arrivé. Voilà. Donc, j'ai eu ce rendez-vous et puis là, elle m'a fait une échographie. Donc, elle se rend compte que j'avais effectivement plus rien. J'avais zéro follicule qui se préparait. Voilà pourquoi j'avais pas mes règles. J'avais donc zéro follicule. Après, au niveau de la FSH, c'était pas normal non plus. En fait, quand la FSH augmente, c'est aussi signe de mauvaise qualité ovocytaire et de ménopause.
D'accord.
Et quand elle monte très fort, on a la ménopause. Donc, moi, elle était au-dessus. Elle était pas cata, mais elle était quand même pas terrible. Il y avait plein de choses qui allaient pas et qui indiquaient que je souffrais d'une insuffisance ovarienne importante quand même. Donc, elle m'a dit, en fait, vous avez bien fait de venir parce que ça n'aurait pas servi finalement d'attendre 6 mois, 1 an, puisque...
Oui, ça ne serait rien passé.
Au contraire, j'aurais perdu du temps,
ouais.
Parce qu'il m'en restait peu.
Oui.
Voilà, elle m'a dit, dans 1 an, c'était peut-être foutu, en fait, si vous étiez resté comme ça. Donc on a été pris en charge. Alex aussi a fait, du coup, des examens, hein, puisque c'est une prise en charge du couple en PMA. Alors, ça peut être le couple féminin maintenant, mais à l'époque, c'était pas encore ouvert au couple féminin. Donc, c'était une prise en charge vraiment, ou maman solo d'ailleurs. Donc, lui aussi a ramené sa carte vitale, enfin voilà, et lui aussi avait son suivi. Et effectivement, on s'est rendu compte que lui aussi avait un souci au niveau de son recueil. Donc, on cumulait tous les deux. Ouais. Après, on a fait un test justement pour savoir si j'avais des chances naturellement. Le test est revenu... pas terrible, les chances étaient vraiment réduites. Donc tout de suite, j'ai eu des stimulations, on a entamé des inséminations très rapidement, quoi. Je crois que ma première insémination, si je me trompe pas, a eu lieu en avril, mai, juin. J'ai eu mes trois premières inséminations. Et en fait, c'était vraiment difficile de faire pousser des follicules chez moi. Enfin, et puis, les tests étaient négatifs, quoi.
Comment tu l'as vécu, toi ?
Bah, on le vit pas très bien, hein, quand on découvre ça. Alors, en même temps, j'avais cette peur de retomber enceinte. Alors, je me suis dit, peut-être que je me crée des blocages, parce que j'avais peur par rapport à l'expérience que j'avais eue, première expérience qui a été très dure. Je pensais pas que ça allait durer quand même. Je me suis dit, bah, avec l'aide, ça va marcher. Moi, je suis toujours très, très positive et optimiste. Ouais. Peut-être un peu trop, des fois, parce que je dois pas être réaliste. Et j'étais un peu dans l'illusion de me dire, bon, bah voilà, je suis aidée, ça va fonctionner, quoi. Et en fait, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, puisque les inséminations, j'en ai fait 6. Mmh. Des fécondations in vitro, j'en ai fait 4.
Sur combien de temps ?
Sur 18 mois, quoi, de PMA. Ouais. En fait, comme j'avais pas grand-chose... Les inséminations, on peut les enchaîner. Les fécondations in vitro, il faut faire des pauses d'un, deux mois, trois mois entre les deux. Mais moi, en fait, le problème, c'est qu'une fécondation in vitro chez une femme qui produit assez de follicules peut durer un an. Moi, une fécondation in vitro, ça dure un mois parce que, en fait, je produis qu'un seul, même pas. La première que j'ai faite, c'était ponction blanche, donc c'était fini. Il fallait tout recommencer. Ponction blanche, ça veut dire que j'avais un follicule. Elle est allée le ponctionner, il n'y avait pas d'ovocyte dedans. Donc on n'a pu rien faire, c'était vraiment la déception. Et ça, c'était en février 2021, le temps que je finisse toutes les inséminations, parce que j'avais même fait un protocole de FIV en octobre-novembre qui a duré un mois et demi, qui était un protocole long. Donc je devais faire ma FIV début novembre, la première. Et alors, malgré les doses, j'avais eu qu'un seul follicule. Alors j'ai la chance d'être tombée sur une gynéco qui donne la chance aux femmes, parce que en dessous de 3, généralement, on t'envoie directement en don d'ovocyte.
Ouais.
Ça marche pas. Enfin, moi, dans d'autres centres, on m'aurait direct envoyé un don d'ovocyte. Elle m'a donné quand même la chance. Après, oui ou non, parce que au final, j'ai fini en don d'ovocyte. Mais en fait, donc la première fille, je fais un mois et demi de traitement. C'était long. C'était un protocole qu'on appelle long. Et avec où on met les ovaires au repos pendant un certain temps, puis ensuite on stimule très fortement pour que ça fasse un électrochoc au niveau des ovaires et que ça permette de faire ressortir des follicules inespérés. Sauf que moi, bah, ça fait ressortir qu'un seul follicule, et arrivé l'avant-veille de la ponction, fallait faire un test PCR pour aller au bloc opératoire, et il est revenu positif. Annulé. Donc un mois et demi de traitement, de piqûres, d'hormones pour un follicule qu'on n'a même pas pu ponctionner.
Ah là là.
Ouais, c'était... Donc elle avait transformé en insémination. C'est pour ça que j'ai fait... c'était ma cinquième. Après, j'ai fait une pause parce que j'avais fait... Jusqu'à février, parce que j'avais fait une... J'avais eu beaucoup de traitements, d'hormones, et c'est pas bon non plus, hein. Faut laisser le corps se reposer. Donc, jusqu'à février, j'ai refait, mais avec un protocole court, cette fois, parce que on avait vu que le protocole long avait marché. De la même manière, il avait pas marché de ouf, puisque j'avais eu qu'un seul follicule aussi. Elle me dit un follicule, un ovocyte, une grossesse, un bébé.
Ouais.
Ok. Donc, on fait la ponction de ce follicule en février. Et bah là, quand je me réveille de l'anesthésie générale que j'ai pas supportée, en plus, super dur réveil, après, je l'ai fait tout le temps en local parce que finalement, j'ai préféré 10 fois plus. Ça me faisait pas très mal. En même temps, j'en ai pas beaucoup. Et voilà. Et je me réveille et là, elle me dit, bah, y a rien dedans, quoi. Sur le moment, je lui dis, vous me faites une blague. Elle me fait, bah non, elle va pas me faire une blague, la gynéco.
Oui.
Mais j'y croyais pas. J'ai fait, c'est pas possible. J'avais les bons taux hormonaux. Tout était au vert et non, il y avait rien dedans. Donc là, le biologiste, entretien, tout ça, tout le monde me dit, partez en don d'ovocyte, quoi.
Et à aucun moment, tu t'es dit, à aucun moment, tu as voulu arrêter, abandonner le projet et...
Non, pas à ce moment-là. J'ai été dépitée, je suis sortie de là, je suis partie en Guadeloupe. J'ai dit à Alex, on part en Guadeloupe, c'était les vacances scolaires de février là. J'ai dit, on part en Guadeloupe, je veux plus, je veux du soleil, je veux plus penser à rien. On est parti, on a emmené son fils, le mien était parti au... C'est à ce moment-là qu'il est parti au Costa Rica avec son papa, donc voilà, il était bien aussi. On est parti là-bas, alors en plus, après une ponction, normalement, faut pas faire de bain, faut pas tout ça. Je suis allée dans les bains thermaux, je me suis chopée une infection.
Aïe.
Qui a duré bien un mois, c'était horrible. Et on a trouvé le bon antibio au final. Bon, bref, la totale. Et puis après, j'ai repris en avril, peut-être. Enfin, j'ai fait une deuxième FIV. Non, j'ai pas fait une deuxième FIV. J'ai entamé les démarches. J'ai appelé le SECO pour pouvoir faire un don d'ovocytes, tout ça, puisqu'on m'avait, on m'avait orienté vers ça. Je commençais à faire mon cheminement, parce que c'est difficile de faire le deuil de son patrimoine génétique, de se dire est-ce que je vais aimer cet enfant autant que mon fils, sachant que c'est mon sang, c'est ma chair, c'est mon patrimoine génétique, il me ressemble, enfin voilà. Et du coup, il y a eu tout ce cheminement, toutes ces démarches, j'ai lu des livres, notamment sur l'épigénétique, où on voit bien qu'en fait, un même embryon, enfin, ça ne parle pas du tout, ce livre que j'ai lu, de la fertilité, ça parle de la cardiologie, tout ça, donc, mais ça s'applique sur la fertilité, parce que un même code génétique, patrimoine génétique, ne donnera pas le même enfant, qu'il soit placé dans un ventre ou dans un autre, parce qu'en fait, en fonction des échanges qu'il y a avec la maman et en fonction de l'environnement, de l'équilibre alimentaire, de l'hygiène de vie, des rencontres que l'on fait, de tout, les gènes ne vont pas s'exprimer de la même façon.
D'accord.
Donc, ça m'a vraiment convaincue de me dire « ce sera mon bébé ». Et j'en ai, et puis Alex, mon conjoint, qui lui, pour lui, ça ne lui posait aucun problème. C'était notre enfant. Donc lui, il m'a aussi confortée là-dessus. Donc j'ai fait des démarches, j'ai contacté des cliniques. Et puis finalement, j'ai conclu avec une clinique en République tchèque. On devait y aller. Bah, on s'est mis d'accord. Au début, elle était OK pour qu'on aille en mars-avril. Et puis bah, quand je suis allée voir ma gynéco, je peux en mars-avril, pour justement préparer ce protocole, parce qu'en France, ma gynécologue m'accompagnait du coup. Elle est ouverte et elle fait les ordonnances à partir des traitements qu'eux donnent, des protocoles. Comme ça, je peux continuer d'être suivie quand même en France et prise en charge, sachant que je n'avais pas utilisé toutes mes possibilités en France. Donc, il me restait une prise en charge, que j'avais encore l'âge. Donc, elle m'a dit pour moi, j'ai le droit de vous suivre, quoi. Dans votre parcours PMA, donc elle m'a fait les ordonnances, les échographies, tout ça. Et puis quand je suis allée la voir, elle me dit c'est dommage parce que cette fois vous avez quelque chose. Donc avant de partir, j'ai tenté la dernière chance. On a fait une FIV, donc j'ai dit à la clinique attendez avant de lancer le, il m'avait trouvé une donneuse, tout ça,
ouais.
Compatible avec moi, avec le même phénotype. Il regarde les études, il regarde plein de choses quand même, le groupe sanguin. Alors moi en plus je suis au moins, donc c'était compliqué.
Parce qu'en France, c'était pas possible d'avoir une donneuse en France.
En France, c'est possible. J'ai appelé le SECO. C'est les SECO qui s'occupent de ça. C'était possible, hein, mais c'est 2-3 ans d'attente. Je préférais partir à l'étranger. Alors, par contre, il faut mettre le prix. Hein, c'est cher.
Ouais.
J'ai choisi la République tchèque parce que dans mon histoire familiale, j'ai un arrière-grand-père qui vient de Roumanie. Donc, je me suis dit, les pays de l'Est. Je me sens une fille de l'Est, quoi. Bon, entre-temps, j'ai fait une collaboration avec MyHeritage et j'ai fait un test ADN et ça m'est revenu qu'en fait, j'avais 50% espagnol. Donc, mais bon, du coup, j'aurais pu aller en Espagne. Et en même temps, la gynécologue me fait, quand on voit vos têtes en même temps, vous faites un peu espagnol. J'ai fait, moi, j'étais persuadée d'être de l'Est. Mais après, j'ai même eu un petit regret, un petit pincement au corps à me dire « Oh mince, j'aurais dû aller en Espagne ». Mais bon, c'est pas le même coup en Espagne, hein, c'est le double de République tchèque. Hein.
Allez,
donc, c'est aussi financier, c'est très dur. Hein. Il y en a pour… En République tchèque, j'en ai eu pour 7 000 euros tout compris. En Espagne, j'en aurais eu pour 12-13 000 euros.
Voilà. Et 7 000 euros tout compris, ça comprend quoi justement?
Le protocole de 5 300 euros à peu près, le protocole avec la clinique. La donneuse, les traitements, les miens, mon suivi, le transfert d'embryons frais, la congélation des embryons congelés ensuite, etc. Et le choix de la donneuse, tout. Il y a aussi, là-bas, ils donnent une compensation à la donneuse. Financière. C'est pas, ils la payent pas, hein, mais c'est considéré comme une compensation qu'on n'a pas en France. C'est gratuit. Mais c'est quand même très éprouvant pour les femmes. Hein. Elles subissent des stimulations, elles vont à l'hôpital souvent, faire des échographies, des prises de sang. Donc c'est pour un peu compenser ce temps-là qu'elles ne passent pas soit au travail. Pour le coup, moi c'était une étudiante donc de l'université à côté. Ils ont une université en fait et beaucoup d'étudiantes font ça. Ça les aide aussi pour leurs études.
D'accord.
Voilà. Et ce qui me rassurait, parce que c'était pas non plus des personnes qui sont dans la misère et dont on exploite la santé, tout ça. Donc le contexte était rassurant. Je me suis quand même renseignée, pour pas participer à quelque chose de négatif. Hein. Et en plus là-bas, on m'a pitché qu'ils ne stimulent pas trop fort, donc elles font peut-être un peu moins qu'à d'autres endroits de follicules et tout ça, mais leur santé est préservée, quoi. Donc, ils sont vraiment très vigilants là-dessus. C'est très réglementé, hein, les lois, etc. On doit signer beaucoup de papiers, etc. Donc, voilà. Et puis, bon, bah, quand la gynéco a vu qu'il y avait quand même un petit quelque chose sur l'échographie, on a dit, on tente la dernière chance. Donc, j'ai fait une deuxième FIV. Et j'ai dit à Zline, on attend. C'est IVF Zline, il s'appelle. J'ai dit, on attend. Je refais une FIV, je retente la dernière chance. Ils m'ont dit, pas de souci. Donc, ça a repoussé le protocole au protocole le mois d'après. Et j'ai refait cette FIV. Cette fois, j'ai obtenu 2 ovocytes prélevés. J'ai fait sous local. Tout s'est très bien passé. Et j'ai obtenu un embryon. Un embryon à J1, un embryon à J2, à J3, parce qu'on les pousse sur 5 jours. Sauf quand il y en a un, ils vont pas jusqu'à 5. À 3, ils vont transférer. Pas d'accroche. Pas de test positif de nouveau.
Là, ça a dû être la déception ultime.
Ben, j'étais moins déçue que la fois où il n'y avait pas du tout d'ovocytes, où j'avais eu même pas ma chance. Oui, c'était la déception, mais j'avais déjà fait mes... J'avais une solution, en gros, de repli, cette fois.
Ouais.
J'avais fait... Ouais. Mes dates de prévues en République tchèque, tout ça. Donc, on y est allé. On est parti 9-10 jours, fin mai, en République tchèque.
Ouais.
C'était un voyage fabuleux, que lui et moi. C'est la première fois qu'on partait sans les enfants, en fait. On s'est retrouvés tous les deux. C'était un voyage fantastique, une prise en charge géniale dans cette clinique, IVF Zline. C'est une clinique familiale, il y a un spa, il y avait des massages, un restaurant gastronomique, tout était inclus dans le forfait qu'on avait pris.
Ouais.
On avait loué une voiture, on a fait la visite, on est resté 2 jours à Prague en arrivant. C'est vraiment un voyage en amoureux, quoi. Et puis en plus, bah, il y a eu la création de nos embryons.
Ouais.
Donc il y a eu 9 embryons fécondés. On était comme des fous. Pour moi, c'était énorme. 9, passer de 0 à 9. Tout s'est bien déroulé, sauf qu'au fur et à mesure des jours, mes embryons nous lâchaient. Et arrivé au dernier jour, il nous en restait qu'un.
Mmh.
Voilà. Donc en plus, ils sont venus nous voir dans la chambre avant. Et je me suis dit, putain, c'est fini, on a 0. Encore, je n'ai pas ma chance, même en don d'ovocytes.
Bah oui.
J'ai cru que le monde allait s'écrouler sous mes pieds après j'ai passé là-bas. Tous les traitements qu'on a pris en amont, hein, pour préparer le corps, tous les machins.
Ouais.
Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Le don d'ovocytes, c'était mon espoir, quoi. Et vraiment mon espoir d'être de nouveau maman, de pouvoir vivre cette parentalité avec Alex. Parce que c'était vraiment ça, cette fois. Autant quand j'ai eu mon fils, c'était viscéral, comme j'ai dit. Je voulais un enfant. Autant là, c'était plus viscéral. Mmh. C'était pas dans moi. C'était vraiment pour l'union du couple et la construction de notre couple parental. C'est pas du tout dans le même... ouais. Avec le même point de vue, enfin, les mêmes ressentis, enfin, et le même objectif, en fait. Et donc, on m'a transféré cet embryon. Le transfert s'est très bien passé. Ils sont vraiment super là-bas. On t'amène directement dans ta chambre parce que le labo, le transfert est... au même étage que l'hôtel. Enfin, tout se passe super bien, sauf qu'en fait, toujours pas d'accroche, quoi.
Ah oui.
Toujours pas de test positif. Là, j'étais désespérée, là. Et donc, elle me dit, il faut qu'on retrouve, comme ils garantissent 2 embryons à 5 jours et qu'on en avait qu'un.
D'accord.
L'autre, on en avait un deuxième, mais il était de catégorie C et les chances d'accroche en catégorie C sont vraiment minimes. Du coup, ils m'ont dit, on ne veut pas vous le transférer parce que déjà, nous, on garantit 2 J5 de très bonne qualité et vous n'en avez eu qu'un. Donc, dans ce cas-là, en fait, ils diminuent de moitié le coût.
D'accord.
Et ils refont avec une autre donneuse. Donc, ils te remboursent la moitié et en plus, ils relancent un cycle avec une autre donneuse parce que, en fait, ça arrive 1 ou 2 fois par an dans la clinique. C'est tombé sur nous, qui est une incompatibilité entre la donneuse et le...
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et le conjoint, quoi. Et le, voilà. Donc, ça nous est arrivé. Voilà. Donc, là, vraiment, j'étais dépitée. Je suis revenue en France. J'ai fait un truc secret. Quand je suis revenue en France, j'étais tellement mal. J'ai vu ma gynéco. Et là, elle m'a dit, oh là là, vous avez encore plus d'ovocytes que d'habitude. Donc, on m'a dit, j'en ai pas parlé sur mes réseaux, rien du tout, parce que je me suis dit, peut-être que ça me porte la poisse, finalement.
Ouais.
Tu vois, je commençais à tout essayer, le mauvais œil, machin. Donc, en juin, j'ai réessayé une 3e fécondation in vitro avec mes ovocytes. Une 4e avec... Et cette fois, j'en ai eu 4. 4 ovocytes, 2 embryons à J1, à J2. À J3, ils étaient de moyenne qualité. Ils n'étaient pas top, ils étaient catégorie B, tu vois, donc c'était entre les deux.
Ouais.
Donc ils m'ont dit, on voulait transférer tous les deux. Donc j'étais trop contente, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est magique, c'est un signe du destin et tout. Je rentre de République tchèque, ça ne marche pas, tout d'un coup j'ai ce que je n'avais jamais eu avant. Pas d'accroche.
Ah là là.
Non, toujours pas de test de grossesse positif. Là, je suis au fond du trou début juillet. Mais vraiment, fond du trou. Ils n'avaient pas encore trouvé de donneuse, nouvelle donneuse. J'avais plus aucune solution. Je me voyais sans solution. Mais vraiment, j'avais plus de perspective, en fait, là-bas. Je commence à dire à Alex, bon, bah là, je lui dis, on va laisser la deuxième, la nouvelle donneuse, tout ça. Mais j'ai dit, mais, enfin, on va quand même le faire. Mais j'ai dit, là, franchement, j'en peux plus, quoi. Je crois que je suis à bout. Je vois plus d'issue. Je lui dis, bah là, franchement. Et puis, mi-juillet, on a la bonne nouvelle que finalement, ils avaient trouvé une super donneuse qui correspondait encore tout à mon phénotype, à mon groupe sanguin, tout. Et qu'on avait obtenu 5 embryons J5. Alors, on passe de rien à tout, parce que 5, c'est beaucoup. Ouais. De catégorie A, les 5.
Ok, les champions.
Donc là, on se dit, waouh, là, nouvel espoir. Donc, c'était mi-juillet. Sauf qu'en fait, j'étais revenue, j'ai dit à Alex, sincèrement, on va faire le transfert de l'un. On va mettre toutes les chances de mon autre côté. Donc, en plus, entre-temps, on avait fait d'autres examens, on s'est rendu compte qu'on avait plein de problèmes. Mutation d'un gène, tous les deux, lui en homozygote, donc c'était cata. En plus, lui, il avait fait la fragmentation des ADN. Donc, en fait, on s'est rendu compte que ses spermatozoïdes avaient plein de soucis d'ADN chromosomique.
Ah oui.
Donc, on s'est dit, oh là là, les embryons, les 5 qui ont été créés, ils ont été créés avec ce sperme, en fait, qui n'était pas génial. Donc, je me suis dit, ça se trouve, ça va encore foirer les 5 et tout. Bon, bref, du coup, je me suis dit, je vais aller faire des examens complémentaires, donc fin juillet, pour préparer mon arrivée en République tchèque fin août. Je suis allée voir ma gynécologue et on fait une échographie et puis des dosages hormonaux pour commencer le protocole. Il fallait que j'attende mes règles. Mais une fois que j'avais mes règles, elle me donnait toutes les ordonnances, tout ça. Il fallait que je commence. Et en fonction de ça, je serais venue du coup la semaine dernière en République tchèque. Je pense le 30 août, c'était à peu près le transfert en fonction de mon cycle qui était long. Puisque quand je suis arrivée à J21 chez la gynéco pour faire la biopsie, tout ça, faire des analyses, optimiser le protocole et tout, ben elle me dit, maintenant, vous allez avoir une ovulation dans 1 ou 2 jours. Alors, elle me donne le choix. Elle me dit, moi, je le sens pas de vous faire la biopsie. Elle était claire. Moi, j'ai fait, franchement, je le sens pas non plus. En fait, je crois que j'en ai ras-le-bol. Je fais une aversion. Je lui dis, je fais une aversion pour ça, quoi. Ouais. Je ne peux plus. Je ne peux plus qu'on me touche là, cet endroit, qu'on me fasse mal. Mon transfert, en fait, en juin, des 2 embryons, s'est très mal passé. Mon col ne s'est pas ouvert. Elle a pris une pince. J'ai pissé le sang. J'ai hurlé de douleur. Je crois que les nanas à l'extérieur, elles devaient flipper parce que je hurlais. Ouais. J'ai eu une crampe dans le dos, une énorme contraction, en fait, parce qu'elle a ouvert mon col d'un coup avec la pince. Enfin, ça a été vraiment, vraiment douloureux. Et je me suis dit, ah non, je veux plus vivre ça. Quoi. Je veux plus, tant pis. Je commençais à me dire, on va faire le tour du monde, on va faire des voyages. Je me projetais dans d'autres projets. J'ai dit à Hugo, Alex, Hugo, mon fils, non, je lui ai rien dit. Je fais la biopsie, je mets toutes les chances de mon côté. On va chercher le premier embryon fin août. Et limite, si ça marche pas, ben, on n'ira pas chercher les 4 autres. On les gardera au cas où, mais on fera d'autres projets. Quoi. Vraiment. Je veux plus vivre pour la PMA, ne plus faire de projet, parce qu'en fait, à chaque fois, toute ma vie était subordonnée au protocole, donc ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Je voyais moins mes amis, parce qu'à chaque fois je me disais, bah non, il faut que je me repose, bah non, il faut pas que je prenne la voiture, bah non. Voilà, donc c'était vraiment l'horreur et je voulais plus. C'était terminé. J'étais à la fin. Et donc ce jour-là, elle me dit, bah ok, on la fait pas la biopsie. Par contre, vous avez une ovulation dans 1 ou 2 jours naturellement sur votre ovaire. Ah oui, parce que j'avais eu un ovaire atrophié aussi. Il n'y avait qu'un seul ovaire qui marchait, je ne l'ai pas dit.
D'accord.
En plus, et c'était l'ovaire atrophié qui avait produit un ovule.
Incroyable.
Donc, elle me dit, il y a les bonnes doses hormonales, il y a tout. Vous êtes en pleine ovulation, je vous déclenche, je vous aide. Elle m'a dit, puis vous faites des petits câlins, et puis vous voyez. C'est la dernière chance. Là, franchement, naturellement, je n'y croyais pas du tout. Je lui dis, avec tous les transferts que j'ai eus, avec tous les machins, pourquoi là, ça marcherait, quoi? Ça a marché. Ça a marché.
Alors, raconte-nous comment tu l'as découvert. Comment tu as découvert cette grossesse?
Je suivais mon cycle au millimètre. Alors, parce que j'ai lâché prise dans le sens où c'était plus un but en soi et que j'étais prête à lâcher. Mais je n'oublie pas chaque minute de mon cycle, quoi. Donc, je suivais chaque minute, chaque symptôme, voilà, quand même. Parce que quand je suis partie, j'ai dit à ma gynécologue, vous savez quoi, je garde quand même espoir. Ah. Elle m'a dit, vous avez raison, j'ai espoir pour vous et j'y crois aussi pour vous. C'est possible. Elle m'a regardée comme ça, elle m'a dit c'est possible. Donc, à vous de jouer. et voilà, c'était possible. Et donc oui, non, bah, je l'ai su tout de suite parce que j'ai fait des tests de grossesse très très tôt. Mmh. J'avais eu donc le déclenchement de l'ovulation, ce qui fausse les tests. Donc ils étaient positifs. À un moment donné, ils sont revenus un petit peu négatifs. Et puis à 10 jours hein, de grossesse, hein, et ben c'est revenu très positif. Donc là, j'ai su quoi. J'ai dit Alex, je crois que je suis enceinte. Il me dit c'est pas possible. J'ai dit bon. On n'y croyait pas vraiment. C'était un peu irréel. J'ai dit, je vais aller faire la prise de sang. Il me dit, ouais, vas-y, machin. J'attends. Et là, je vois. Il était resté au téléphone. Il était au boulot. Il restait au téléphone avec moi jusqu'à ce que je reçoive le résultat. Il a mis plus de temps que d'habitude à arriver. Au lieu de mettre 1h30, il a mis 3h, 4h. Mais il est arrivé. On est resté toute la matinée au téléphone ensemble. Il voulait pas. Il voulait que j'ouvre le truc avec lui.
Ouais.
Et là, c'était 24. 24, donc c'était bon, quoi. J'étais enceinte 24 UI. Alors, je savais que j'étais en tout début, donc c'était normal. Après, il m'a dit, on attend que ça double. 2 jours après, 75. J'étais là, j'irai, ça double, quoi. C'est la première fois que ça m'arrive. Je voyais les tests foncés aussi. Donc, je me suis dit, ouais, ça monte. Et puis, 2 jours après, 158. Et puis, 4 jours après, 863. Et puis, je suis allée jusqu'à 8700, hein, pour me rassurer. Et puis après, j'ai eu les échographies. Qu'on confirmait qu'il y avait bien un petit cœur qui battait, qu'il y avait un petit embryon qui se développe. J'ai refait une deuxième écho parce qu'il était plus petit que la moyenne quand même. Mais bon, je sais pas pourquoi, je me suis pas trop inquiétée. Un petit peu, on s'inquiète forcément. J'ai eu cette inquiétude, mais elle était pas atroce, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je sais qu'il y a beaucoup de femmes quand elles sortent d'un parcours comme ça, qui sont dans un état d'angoisse, en fait, de stress, qui ont peur à chaque moment de perdre l'embryon. Moi, ça va. Je sais pas pourquoi. J'ai eu assez confiance en lui dès le début en me disant ouais, c'est un MacGyver quoi. C'est un warrior celui-là quoi. C'est pas possible. Du coup, après tout peut arriver hein, je touche du bois parce que on n'est jamais à l'abri d'un malheur et puis on sait pas au niveau chromosomique et tout mais il a l'air bien se développer, il est passé de 2,3 mm à 1 cm en une semaine. Aujourd'hui, je suis à 1 mois et demi hein, presque en fin de semaine, je suis à 1 mois et demi.
Félicitations.
Merci. Je vis une grossesse formidable pour l'instant, dans le sens où j'ai été très malade pour mon fils. Je ne le suis pas du tout. Alors, j'ai eu un petit malaise l'autre jour, mais bon, rien, un petit malaise vagal, quoi. Rien de spécial, un petit coup de fatigue, quoi. Bah bon, si ça s'arrête là, ça me va. Je vais très bien. Et pour l'instant, c'est que du bonheur. Voilà, c'est que du bonheur. Bon, je l'ai dit aux enfants parce qu'on n'a pas pu retenir. On n'a pas pu garder ça pour nous. J'espère du coup que ce sera pas voilà qu'il se passera rien de mal mais voilà comme je dis on peut jamais savoir hein.
Ouais.
Même au début même à la fin jusqu'à ce qu'on a le bébé dans les bras mais pour l'instant tout va bien et on a réussi.
Et est-ce que tu t'es dit mais mince ça se trouve si j'avais pas fait tous ces parcours là ça aurait peut-être fonctionné directement
Non si j'avais pas fait ce parcours là ça n'aurait pas je c'est un chemin je pense que c'est parce que elle m'a aidée quand même. Elle m'a déclenché l'ovulation. J'ai des ovules de progestérone parce que je suis en déficit aussi de progestérone. Bon, ça va avec insuffisance ovarienne. Voilà. Donc la grossesse tient pas forcément en fait parce qu'il manque des progestérone et tout. Du coup, je suis quand même accompagnée. Ça a relancé mes cycles clairement. Hein. Toutes ces stimulations, tous les traitements que j'ai eus, ça a relancé quelque chose parce qu'on voit que ça s'est amélioré de mois en mois. Et je pense que c'est un chemin en fait, tout est chemin, tout est imbriqué. Je pense que il fallait que je passe par ça, par ces épreuves-là. Peut-être pour débloquer des choses psychologiquement aussi, même si on cumulait les infertilités, il faut pas négliger aussi la part émotionnelle, affective, psychologique, même si évidemment que quand on me dit arrête d'y penser, ça va venir. Non, en fait, quand tu cumules d'un côté et de l'autre autant d'infertilité, non, ça ne vient pas parce que juste arrête d'y penser. C'est absolument faux. D'ailleurs, je n'ai jamais arrêté d'y penser.
Ouais.
C'est pas le fait d'arrêter d'y penser. C'est cette histoire de lâcher prise, de se dire j'accepte. Et c'est ça. Je me suis dit j'accepte. J'accepte que ça marche pas. J'accepte que c'est beaucoup d'émotions.
C'est normal. C'est intense tout ce que tu as traversé.
En fait, à chaque fois que je repense à tout le parcours,
Je pleure. De joie aussi. Mais je crois qu'aussi, il y a des hormones de grossesse. Parce que je pleure pas facilement quand même. Mais je pense que là, en ce moment, dès que j'en parle, je pleure, mais je crois que c'est les hormones de grossesse. Je crois qu'il y a un peu de tout là. Il y a aussi la fatigue, il y a aussi...
Tu as tout à fait le droit de pleurer, ne t'en fais pas. Et alors, tu peux partager ça avec plein d'autres femmes désormais sur tes comptes, etc.
Ouais.
Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, à une femme qui est dans ce même parcours, s'il y en a un à donner?
C'est super dur de donner des conseils. Ouais. Hein. On est toujours très mal placé pour donner des conseils aux autres. D'ailleurs, en tant que conseillère conjugale, parce que j'ai aussi cette posture-là, on donne pas de conseils. On est là pour accueillir en fait l'autre et avec ses questionnements et puis le guider. Voilà, c'est guider les autres. Je suis dans cette démarche-là, je suis pas vraiment dans une démarche de conseil. Donc plutôt dans une démarche d'écoute et d'accompagnement. Et j'aimerais bien travailler à la clinique, en fait, avec, en complément de des gynécos. J'aimerais beaucoup travailler avec ma gynécologue, avec son équipe, ses assistantes. Ils sont vraiment géniaux. Anna Tessia, vraiment. Les secrétaires, elles sont hyper à l'écoute parce que c'est vraiment pas facile pour les femmes de combiner, en fait, la vie professionnelle, vie personnelle, quand on a en plus déjà des enfants ou pas. Mais des contraintes, en fait. Et qu'en plus, on doit ajouter tous ces rendez-vous de la PMA qui viennent subordonner toute notre vie. Et elles sont là à essayer de trouver plein de solutions tout le temps. Je les entends au téléphone, à l'écoute avec ces femmes, en train de leur dire, écoutez, on va essayer, elles trouvent des rendez-vous entre deux. Les gynécos, elles s'adaptent. Ils sont vraiment super, ce qui n'est pas le cas partout. Elles donnent leur numéro de téléphone portable, les gynécos.
Ah oui.
Et en fait, en fonction de nos résultats, on leur envoie des textos et elles répondent, même si elles sont en vacances, en fait. Ouais.
Oui.
Pour pas louper le cycle de la femme, pour s'adapter à elle. Alors, des fois, c'est très succinct parce que elles en reçoivent plein et donc elles répondent de façon très brève. Mais en tout cas, elles sont quand même là à suivre. Et du coup, moi, j'aimerais bien travailler à l'hôpital en tant que conseillère conjugale, mais cette fois dans l'accompagnement PMA, quoi.
Oui, parce que
je l'ai vécu.
Et le couple prend un peu cher aussi dans ces parcours.
Alors, oui, beaucoup de couples, ouais. Nous, non. Nous, je dirais que ça nous a renforcés. On a eu un combat commun, donc ça peut faire l'un ou l'autre, en fait.
Ouais.
Moi, j'avais la chance d'avoir un mec hyper motivé, mais il y a beaucoup d'hommes qui en fait sont épuisés de l'acharnement de leur femme et ne suivent pas.
Ouais.
Et du coup, ça crée forcément, quand il y en a un qui met plus d'énergie dans un projet que l'autre, bah, ça crée des désaccords, des conflits, et un sentiment d'injustice. C'est là, mais pourquoi tu m'accompagnes pas? Il y a des couples qui cassent à cause de ça, parce qu'en fait, ils sont plus sur la même longueur d'onde par rapport à ce projet-là. Nous, en fait, moi, il m'a toujours dit, je te suis partout. C'est toi qui décides où tu veux aller, j'y vais. Voilà. Donc c'était simple. Donc je demandais, il exécutait. Et puis il était présent tout le temps, enfin dès qu'il pouvait. Alors il venait pas à tous les rendez-vous PMA et tout ça parce que c'est pas possible lui avec son travail. Mais du coup, moi je suis à mon compte, donc c'est plus simple d'organiser ma vie en fonction d'eux. Même si ça a été pas simple au final parce que j'ai perdu en chiffre d'affaires, parce que j'ai pas pu travailler autant que je le voulais, etc. Donc ouais. Financièrement ça a été dur aussi. Puis ça coûte cher, les vitamines, les machins, les trucs, les acupuncteurs, les ostéopathes, parce que la médecine parallèle. Alors moi ça m'a beaucoup 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 aidé, hein, la médecine
douce,
paramédicale et la médecine parallèle, la médecine douce. L'acupuncture, je pense que ça a aidé énormément à relancer mes cycles où j'étais à rien au début puis que j'ai réussi à avoir des embryons à la fin. Donc, il y a eu l'acupuncture, il y a eu un avant mon acupuncteur et un après. J'ai aussi vu une femme qui faisait de l'acupuncture et qui m'a suivi pendant le cycle, bah justement, des deux embryons, le dernier. Donc, je pense que ça a aidé tout ce qu'elle a fait. Elle a mis des ventouses pour vasculariser. Il y a un ostéopathe aussi qui m'a suivi. Je suis allée voir deux ostéopathes. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh oui, et alors, on ne sait pas si c'est ça ou pas, mais on avait donc des soucis tous les deux d'un gène qui a muté, tout ça. Et 3 semaines avant que je tombe enceinte, on avait commencé justement des vitamines qui s'appellent Nurilia, tous les deux.
D'accord.
On a pris des trucs différents, avec des dosages différents. C'est un gynécologue qui exerçait aussi dans ma clinique, on va toujours le hasard, puisque c'est une abonnée qui m'a dit « appelle-les, essaie de te contacter, parce que nous, ça avait marché sur nous ». Donc, je suis allée voir. Et je me suis dit, ah, ils sont à Lyon. Oh, il travaillait aussi à Anathesia. Ah, et donc, du coup, je l'ai rencontré, ce monsieur. J'ai fait ce médecin, ce gynécologue de 82 ans, je crois. Mmh. On a fait un live ensemble, hyper intéressant, constructif. Alors après, lui, il vend ses vitamines, mais on voit que c'est quelqu'un qui veut vraiment aider les femmes. Et du coup, qui est un super gynécologue. Hein. Il a été obstétricien, accouché les femmes, tout ça. Et... il était spécialisé fertilité, il a créé ses vitamines spéciales en fonction de problèmes de chacun, pour les hommes, pour les femmes et tout. Et donc nous, il nous avait fait un petit cocktail pour nous, et il m'avait dit, 3 semaines avant du coup, c'était avant de partir en vacances, il m'avait dit, vous savez, moi j'ai des femmes qui tombent enceintes naturellement, 3 semaines, 1 mois après avoir pris mes vitamines. Je lui ai dit,
charlatan.
Enfin, je lui ai pas dit ça, il lui dit, je vais les tester les vitamines. Ça doit marcher, mais de là à tomber enceinte naturellement 3 semaines après.
Et puis si.
Bah, mais bon, moi je pense que c'est le cumul de tout. L'acupuncture, les bonnes personnes que j'ai vues, qu'on relançait des cycles, qu'on machin. Aussi moi qui ai fait un cheminement personnel, aussi les vitamines. C'est un cumul de toutes ces choses que tout le monde a mis en place, de ces rencontres que j'ai faites, de ces vitamines, de ces médecines douces et tout ça qui ont fait que j'en suis là. Et donc, c'est pour ça que je dis, si je n'étais pas passée par ce parcours, je ne suis pas sûre que j'en serais là aujourd'hui.
Donc, le conseil, ce serait peut-être d'oser frapper à toutes les portes.
Oui. Alors oui, si un gynécologue vous dit, ah ben non, vous êtes fichu, personne ne vous prendra, c'est fichu dès le début, ça arrive. Hein. Bah non, non. Allez voir quelqu'un d'autre, quoi. Vous n'êtes pas marié à votre gynécologue. Voilà, allez voir quelqu'un d'autre. Et pas... Pensez à vous, en fait. Voilà, pensez à vous. Vous n'êtes pas infidèle. Voilà, c'est aussi, voilà, pousser les portes. Et puis, trouver une personne, une gynécologue, une personne qui vous accompagne, en qui vous avez confiance. Et lui faire confiance. Parce que moi, c'est vrai qu'elle m'a... Elle m'a pas du tout fait les examens classiques, quoi. Il y avait plein d'examens que j'avais pas fait, et les filles, elles m'ont fait, mais tu te rends compte, tu fais ça sans avoir fait ces examens. Je fais, ben moi, je fais confiance à ma gynéco, qui m'avait dit que j'en avais pas besoin. Ouais. Elle m'avait dit, moi, je surmédicalise pas, je ne veux pas, parce que des fois, ça apporte, ça empire la situation, certaines choses. Pour elle, la biopsie, fallait pas me la faire. Sur le moment, à un moment donné, j'ai douté, je me suis dit, mais si ça se trouve, elle aurait dû me faire les examens, elle a été trop légère, et du coup, on est passé à côté de quelque chose. Mais la conclusion me confirme que non. J'ai bien fait de faire confiance. Donc voilà, vraiment, il faut en fait tomber sur les bonnes personnes, quoi. Et pas hésiter à changer, et pas hésiter à se renseigner, et pas rester seule. C'est-à-dire venir sur les comptes, pas forcément le mien, mais venir se renseigner, partager avec d'autres femmes. Il y a aussi des groupes sur Facebook, il y a beaucoup de groupes de PMET, on appelle ça. Voilà, des groupes de PMET, etc. Et je pense qu'il y a énormément, parce que moi, sans mes abonnés, j'en serais pas là non plus, quoi. Mmh. C'est eux qui m'ont dit teste l'AMH, teste le machin. J'aurais perdu du temps sans mes abonnés. Donc c'est un truc de fou. Ils m'ont accompagnée sur tout, même sur d'autres choses, hein, je sais plus sur quoi. Ah, mais attention à ça. Oui, par rapport aux vitamines, c'est une abonnée. Hein. Elle m'a dit, bah, moi aussi, je suis partie en République tchèque et nous, ça, regarde ces vitamines, nous, ça nous a aidé et je suis tombée enceinte, quoi. Ça a aidé mon mari. Donc, je suis allée voir ces vitamines. Je me rends compte qu'en plus, c'est dans ma ville. Enfin, voilà. Donc, c'est grâce aux autres, en fait, et en parler, à échanger. Ça aide à garder le moral, à se sentir moins seule. Donc, pas rester seule dans ce parcours. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent le cacher, donc au travail, voilà. Mais bon, il faut trouver une écoute et puis des échanges, ça fait du bien, quoi.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Ben moi, j'ai trouvé un sens à ma vie. Hein. J'ai trouvé un sens à ma vie que je cherchais désespérément avant. Hein. J'étais en crise existentielle toute ma jeunesse, même si j'ai pas fait une grosse crise d'adolescence et tout, que je suis plutôt quelqu'un d'équilibré. Même enfin aujourd'hui, etc., je pense que je suis quelqu'un de plutôt équilibré, d'assez nature, spontané, équilibré, mais moi, ça a carrément... Enfin, je ne verrais plus ma vie sans enfant, quoi. Ce n'est pas possible. Ouais. Mais mon fils, bah, ma vie tourne autour de lui, hein, clairement. Ok, j'ai mon métier, je suis passionnée par ce que je fais, je suis quelqu'un de passionné et que j'adore faire des projets, donc je fais des enfants. Quand je fais des projets, je fais des bébés. La maternité, c'est pas que mon enfant, mes enfants maintenant, futurs, mais c'est aussi les projets créatifs que je mets en place. je donne naissance à des petits bébés et j'adore les faire grandir, etc.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman lyonnaise ?
Bah, c'est que j'ai mis au monde des petits bouchons, des petits bouchons lyonnais.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Lyon ?
J'ai un resto que j'aime bien à Lyon, hyper kids-friendly, où les enfants ils peuvent s'éclater, courir partout. C'est assez large, il y a un baby-foot, etc. En fait, c'est kids-friendly parce que le dimanche, ils font des ateliers pour les enfants, scientifiques, etc., pendant les repas, ou alors de cuisine de pizza, etc.
Ah, super.
La fabrique. Ah. F-A-B-R-Y-K. La fabrique. Et en fait, ils font, voilà, le samedi et le dimanche, je crois, ils font des ateliers le midi, entre midi et deux, pour les enfants, des petits scientifiques avec des animateurs ou cuisine de pizza, puisque c'est un Italien à la base. C'est grand et puis la décoration, elle est un peu indus. Enfin, il y a le baby-foot, les enfants peuvent vraiment sortir de table, voilà. Vagabonder dans le resto, enfin, c'est vraiment chouette. Ouais, on passe des bons moments là-bas.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ce prévu en famille ?
Mes projets à moi, ben, en fait, du coup, j'ai envie d'écrire un livre, quoi. J'aimerais bien écrire un livre pour, pas forcément que pour parler de mon histoire, mais qu'à travers mon histoire et aussi en donnant des informations, à l'écrire peut-être en échangeant avec ma gynécologue, enfin, voilà, pour... avoir des informations médicales qui sont quand même justes. J'aimerais écrire un livre sur ce parcours PMA. Peut-être qu'il s'appellerait « Il suffit d'un ». On m'a donné l'idée, je me dis « Bah ouais, c'est vrai, il suffit d'un, quoi. » Voilà, c'est tout. C'est ce que je dis maintenant à toutes les femmes. Je dis « Mais tu te rends compte si ça… » En fait, en PMA, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Dans les essais bébés, c'est la nature au final qui décide. C'est-à-dire que tu peux avoir tous les paramètres parfaits, pour que ça fonctionne et ça ne fonctionne pas. Mmh. Et tu peux avoir inversement des paramètres qui déconnent, on annule la fécondation, enfin la gynéco annule la fécondation in vitro en disant allez, je fais une insémination pour lui, en gros, pour ne pas perdre le cycle, mais bon, les chances sont vraiment émises et ça marche. En fait, à un moment donné, il y a quelque chose qui nous dépasse. Donc voilà, j'aimerais écrire ce livre pour l'expliquer ça. Pour l'expliquer, le transmettre et donner la force à d'autres femmes et surtout dédramatiser aussi parce que j'ai beaucoup de femmes qui disent « Oh là là, je rentre en PMA, c'est comme si elles mettaient un pied en enfer ». J'ai envie de leur dire en fait la PMA, mais c'est magique parce que c'est une chance en vrai de rentrer en PMA. D'accord, ça va être éprouvant, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous faire peur, etc. Mais c'est une chance que nous donne la science aujourd'hui, c'est de nous aider médicalement pour pouvoir réaliser notre rêve, en fait, d'être parent. Donc, effectivement, voilà, j'aimerais écrire ce livre. Et en famille, eh ben, on a déjà prévu notre voyage. Alors, déjà avec Alex, on avait déjà prévu notre date de mariage avant que je tombe enceinte. Hein, mm-hmm. Parce que du coup, on s'est dit, bah, on ne fait plus en fonction de la grossesse. Hein. Donc du coup elle est prévue le 10 juin 2023 donc bébé sera là.
Mais ouais.
C'était pas sûr, voilà, il sera né puisqu'il est prévu pour fin avril normalement. Et puis surtout on a déjà prévu nos vacances de l'année prochaine avec le bébé et les deux enfants. On s'est dit qu'on serait trop content de louer un camping-car et de faire le tour du nord de l'Italie en camping-car. Alors au départ c'était l'ouest américain, mais bon, on s'est dit c'est mon rêve, hein, faire la route 66, de voir le Grand Canyon, tout ça, franchement, les villes fantômes, tout ça, ça me ferait rêver. Mais bon, avec un nouveau-né, je me dis, ça va peut-être être chaud de partir à l'autre bout du monde et tout. Donc, peut-être se faire ce petit road trip, et puis celui-là, peut-être plus tard, en camping-car dans le nord de l'Italie. Donc voilà, on en parle, on est en train de prévoir ça, parce que nous, on a, voilà, moi, une de mes passions, c'est les voyages quand même. Donc ça, je me dis, ça peut être super, super génial. On passe 2-3 semaines en camping-car, on est à la cool. Moi, j'allaite le bébé comme ça un petit peu plus longtemps, comme ça, comme si c'est possible, évidemment, on ne sait pas de quoi la vie est faite, mais voilà, si ça marche comme ça, bah, ça simplifie les choses et on se projette là-dessus en famille sur ce joli voyage l'été prochain.
Merci beaucoup, Angie.
Merci à toi d'avoir reçu.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
This is the summer to expand your horizons. You've had enough staying home. You've had enough confinement. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate travel shoes from Allbirds, like the breathable, silky, smooth Tree Runner, the responsive foam and extra grip of the Tree Dasher, or the classic low-top look of the Tree Piper. Allbirds has a shoe ready for whatever adventures you have planned. Whether you're traveling to the ends of the earth or settling in for a staycation, you need a shoe that's versatile enough to go with any outfit, durable enough to wear over any terrain, and lightweight enough to make packing a breeze. Being made from insanely comfortable, breezy eucalyptus fiber is a plus, too. When you wear Allbirds tree shoes, you're in vacation mode before you even leave the house. They're the only shoes your suitcase needs. Boarding pass? Check. Passport? Check. The perfect travel shoe? Check. Find your perfect pair of Tree Dashers, Runners, Pipers, and more at Allbirds.com. That's Allbirds.com.